ce caractère trop spécifique qu'est devenu l'hébreu à Oukazdim pour redevenir l'hébreu avec sa capacité de Atem Kroi Madame, de l'homme authentique, absolu, à l'échelle universelle, capable de l'envergure universelle. En tant qu'Aram, il est l'hébreu devenu araméen, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, mais devenu trop spécifique, trop différencié, il ne peut plus servir à ce qu'est la vocation de l'hébreu. Et je vais expliquer peut-être en me référant au temps contemporain, okay, avec le principe suivant que vous apprendrez dans beaucoup de sujets. Ce qui est pur, c'est ce qui est indifférencié. Ce qui est impur, c'est ce qui est devenu trop différencié. Ça, vous l'apprendrez centralement si vous étudiez la cache-route. La définition de l'impureté qu'il faut évacuer de la nourriture, c'est tout ce qui est devenu dans la vie trop différencié. Ça devient impur. C'est le problème de l'assimilation en général. Qu'est-ce que ça veut dire s'assimiler ? Ça veut dire s'assimiler à quelque chose de très particulier en tant que manière d'être homme. Et dans les temps traditionnels, quand dans une famille juive, un juif s'assimilait, et l'ami c'était la conversion à autre chose, on prenait le deuil. On disait Kaddish, la Shiva, okay, c'est la mort. C'est-à-dire on a quitté le flot central indifférencié, hébreu, même lorsqu'il est souterrain dans l'exil, comme dans le cas de Aram, on s'est adapté à une forme particulière de manière d'être homme, on est mort en tant que vivant. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi on prenait le deuil. D'ailleurs, je crois que ça sent dans certaines familles. Il arrive qu'un membre d'une famille juive devient goy, enfin il croit, alors on prend la Shiva. Non, mais je parle encore des familles, vous savez. Je veux dire, c'est arrivé dans une grande famille d'Alsace, il n'y a pas très longtemps, famille d'un très grand rabbin. Et son petit-fils s'est marié avec une goya, que ça. Et la famille a pris la Shiva. Le père était président de la communauté. Je ne vous dirai pas plus, vous allez savoir qui c'est. J'ai connu, c'est tant d'assimilation, j'ai connu une famille, je ne vous dirai pas où. Le père, le chef de famille, était le grand rabbin de la ville. Ça se passait en France, je ne dirais pas plus. Et sa fille aînée était la supérieure du couvent de la ville, de la même ville, je vais vous dire. Alors, un des petits-enfants est mort dans un asile, en plus, parce que c'est inévitable. Vous savez, je vous ai dit un jour, les Juifs ont choisi la France comme terre d'asile. Et ça fonctionne. On revient au sujet. D'ailleurs, pas seulement la France, mais en France, il y a de bons huîtres. Alors, au problème. Voilà, je crois qu'il y a là une. Est-ce qu'on peut faire peut-être une petite absaca de 2 minutes? Mais je vous dis tout de suite que le principe sur lequel je crois que ça mérite de réfléchir. Lorsque l'hébreu se fixe dans sa greffe sur les nations de façon trop assimilée, alors il devient trop différencié, il perd cette capacité de l'universel qui désigne Abraham, Abraham Goïm, et il retrouve cette subjectivité très spécifique des juiveries contemporaines qui s'appelle Aram. C'est pourquoi la Torah interdit de revenir au stade Aram. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Si vous faites une analyse des juiveries contemporaines, bon, elles sont vidées de leur contenu, la plupart du temps. Je ne sais pas de quel milieu, à quel degré d'assimilation vous provenez, mais je pense que vous allez comprendre de quoi je veux parler. Mais chaque juiverie, et il y en a eu des dizaines de milliers suivant les paysages culturels de nos voyages pendant 2000 ans, c'est façonné dans une manière d'être juif tellement spécifique que c'est devenu tellement spécial, tellement que c'est une scorie, un déchet finalement, et que ça disparaît. Okay. Enfin, ça disparaît dans les catastrophes. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Si je vous ferai, je l'ai fait avant, il y a une petite fois, la carte d'identité de mon identité quand j'étais juif d'exil. Voilà. Je suis né dans une ville d'Algérie. Alors, voilà que c'était être juif dans cette ville d'Algérie, au temps où j'étais plus jeune que vous, c'était avant la guerre mondiale. Et je me rappelle comment j'étais dans la maison de mon grand-père, qui était rabbin dans la ville d'Algérie. Alors voilà, on parlait l'arabe. Enfin, le juif de l'arabe, mais c'est de l'arabe. Parce que c'était la langue de la communauté. Quand on était cultivé, on disait le français. Et puis, comme on était juif, on priait en hébreu. Et puis, comme on était pas loin de l'Espagne, on pleurait en espagnol. Et puis, les marins étaient italiens, on s'insultait en maltais. Et c'était beaucoup plus compliqué que ça. Okay, et tout ça, ça faisait une identité juive dont vous n'avez aucune idée de la richesse, et de la nuance, et de la vulnérabilité. Dès que le paysage culturel très spécial disparaît, c'est fini, ça s'est évanoui. C'est intransportable, même pas à Sarcelles. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, multipliez cela par toutes les manières des juifs qu'il y a eu dans l'histoire. Okay. Et vous voyez ce que c'est la clipa aram. Ça ne veut pas dire que clandestinement, enfoui, il n'y avait pas une authenticité hébraïque qui veillait sous la cendre, mais la cendre a fini par l'éteindre. Et voilà, est-ce que c'est clair? En tout cas, par rapport à notre sujet, je ne sais pas si ça... Vous allez dire une blague, c'est inutile. J'ai pas l'habitude. Ça c'est la blague. Je veux dire que il y a une démission du caractère de capacité de l'homme universel qu'est l'hébreu et qui devient une parmi les nations. C'est un peu ce que disent les juifs dans l'exil. Ils le disent de plus en plus fort depuis qu'il y a Israël et qu'ils n'en font pas partie, qui ne sont pas redevenus hébreux. Alors ils disent, il y a une nation en particulier qui est la nation de l'universel, c'est les juifs. Alors je vais essayer de vous indiquer à quel point c'est faux. Il y a une confusion entre l'universel, qui est l'hébreu, et le cosmopolite, qui est devenu. Oui, je vais poser la question.
Vous avez dit que Abraham avait son nom, était porté de Abraham à Abraham au moment où il a fait son alliance.
Je veux dire, j'ai pas dit ça comme ça. Tu as bien fait poser la question. Je veux dire, ce processus de la difficulté de se dégager de l'identité Abraham pour devenir Abraham, toute proportion gardée, c'est ce processus-là que nous vivons dans la Aliyah. C'est ça que j'ai compris.
Il y a pas peut-être qu'il a...
Tu as recodé, ok?
Oui, c'était pas son nom. Il n'avait pas enfanté Ismaël, c'est-à-dire c'était pas son fils Ismaël.
J'ai pas dit ça. Tu vois, heureusement que c'est enregistré.
Il l'avait eu en tant qu'Abraham.
Oui, reprenez le texte. Ismaël est fils d'Abraham. Alors il y a un moment dans le récit où il est appelé Ben Abraham. C'est après qu'il a fait Tchouva. C'est-à-dire qu'il a reconnu qu'Eretz Israël appartient à Isaac. Ça se passera à Hebron, à Kiryat Arba, espérant dans pas longtemps. D'ailleurs, ça se passe à Hebron, dans le récit. Regarde bien le texte. Okay. Ishmaël est fils d'Abraham. Et même pas, jusqu'à la fin, quand Ishmaël aura fait Tchouva, il est appelé fils d'Agar, qu'elle avait enfanté à Abraham. Il avait dû la regarder d'un regard hagard. Donc, si on a le temps, on reprendra tout ça plus en détail. Mais je vous signale, il ne faut pas jouer à ça, mais je vous signale que les thèmes d'identité de ce qu'est notre existence en tant que juif et israélien sont à tel point parallèles à ce que la Torah raconte que c'est normal. Donc, alors, revenons au propos. Voilà. Nous allons choisir comme thème dans l'histoire d'Abraham un seul. C'est celui de la séparation entre Abraham et Lot. Effectivement, d'Ur Casdin, les personnes de la famille d'Abraham qui sont sorties d'Ur Casdin, il y a différents étages, un ne sort pas d'Ur Casdin, c'est Nahor, si je me souviens bien. Et, non, un ne sort pas, c'est Terah. Il reste là-bas. Haran, je vais reprendre le texte. Terach a fait un petit voyage en Eretz Israël, mais il y aurait de... Tu connais ça?
Bon,
ouais, pour tout le monde. Et il y en a un qui n'arrive pas, il meurt là-bas, à la frontière. Okay. C'est Haran. 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 Ok. On va voir le texte tout de suite. Il y en a un qui accompagne l'autre. Il y en a un qui accompagne Abraham et c'est l'autre. Abraham qui est sorti avec Sarai, c'est Lot. Et Lot va rester à la mer et va se séparer d'Abraham. Et il va engendrer deux peuplades qui vont s'instaurer en rivalité contre Israël, dont vous lirez l'histoire dans le Tanakh. C'est Amon et Moab. Et c'est une histoire importante parce que c'est de Moab que va venir Ruth, qui est l'ancêtre du roi David. Alors je choisirai ce thème-là. Okay. Et. Avant de lire les versets, et je vous donnerai un certain nombre de références à préparer pour la prochaine fois, je vous donnerai le plan général que je viens de toucher, le sujet que je viens de toucher là. Dès que cette identité, Israël, commence à se préparer avec Abraham devenant Abraham, elle va être accompagnée de rivalités, dès l'origine. Et ces rivalités sont de deux ordres. Je peux pas me lever et mettre ça au tableau, mais essayer de visualiser ou écrire ça en tableau vous-même. Dans la lignée centrale des engendrements d'Israël, vous avez Abraham, Isaac, Jacob. Et à chaque génération, c'est accompagné de rivalités que la Torah nous raconte et que nous vivons dans l'histoire. J'ai fait allusion tout à l'heure à la première, celle qui procède de Lot. Alors vous mettrez dans une colonne les rivalités qui procèdent de ce que j'appelle approximation d'identité. L'araméen qui n'arrive pas à devenir hébreu et qui va s'installer en rivalité de l'hébreu en cours d'engendrement. Et dans l'autre colonne, les adversaires qui veulent annuler cette identité Israël. Alors, premier niveau, la génération d'Abraham. Alors, dans la colonne de l'approximation d'identité qui s'instaure en rivalité, vous avez Lot. Dans l'autre colonne, la rivalité absolue qui veut annuler tout cela, c'est Nimrod. Ça vous recodera la cohérence des récits de la Torah à ce sujet. À la deuxième génération, Isaac, l'approximation d'identité qui s'instaure en rivalité, c'est Ishmaël. Okay? De l'autre côté, l'adversaire qui veut annuler cette identité, et je vous ferai lire les textes, parce que c'est pas, comme tout ce qu'on apprend dans la Torah Shebal Peh, c'est pas lisible dans les traductions, même les traductions de l'hébreu, c'est Abimelech, qui veut couper Isaac de la terre d'Israël. Et nous verrons toutes les implications que cela a, et que nous vivons à notre manière de notre temps. Okay. Et puis à la troisième génération, Jacob, l'approximation d'identité qui s'installe en rivalité, c'est Ésaü. Et l'adversaire qui veut tout annuler, c'est Laban. Je vais vous rappeler les Mishnayot dans l'Agada de Pessah. Mais Laban, Bikesh, Laakov et Akol. Je ne traduis pas maintenant, mais... Donc nous avons six rivalités. Je les récapitule. Il faudrait que nous ayons le temps d'étudier tout cela, mais enfin vous aurez au moins ce schéma qui vous aidera à ordonner tout cela. D'un côté, Lot, Ishmael, Esav. Lot a donné les deux lignées de prétention messianique, Amon et Moab, et Ruth va en être sauvée et rentrer en Israël. Ishmaël a donné l'islam, Ésaü a donné la chrétienté, et vous voyez à quel point c'est colossal comme amorce de rivalité, d'approximation d'identité qui s'instaure en rivalité. De l'autre côté, Nimrod, le principe des empires, Abimelech, la réclamation de la terre d'Israël, et... Laban, je n'ai pas en tête comment vous le formulez maintenant, mais nous le verrons à ce moment-là.
L'ennemi.
Hein? J'entends pas. L'Aziz. Oui, okay. Et il y a plus quand même, c'est que ces six rivalités, à certains moments de l'histoire, se récapitulent dans une septième, qui est la plus terrible, c'est peut-être plutôt ça, et qui s'appelle Amalek. Alors, très rapidement, pour terminer ce schéma, Amalek cumule les deux prétentions, à la fois remplacer Israël et le détruire et le remplacer. Tandis que les autres, c'est le remplacer sans le détruire, ou le détruire sans le remplacer. Mais Amalek a cette prétention-là de culmination des six rivalités en une septième. Et Amalek apparaît toujours au moment de la fin d'un des exils d'Israël. Je vous donne le plan, il est très simple. À la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui apparaît ? Amalek. À la fin du deuxième exil, l'exil de Babel, c'est toute l'histoire du livre d'Esther. Qu'est-ce qui apparaît pour essayer de détruire Israël ? La descendance d'Amalek, Aman. Et de notre temps, à la fin du troisième exil, on sort de l'exil de Rome, enfin ceux qui en sortent, apparaît Amalek contemporain, qui a différents visages, mais qui a essayé de le diagnostiquer par vous-même. Je n'ai pas à vous dire de qui il s'agit, mais c'est clair, comme typologie d'identité, celui qui prétend être le véritable Israël, le remplacer sur sa terre et détruire Israël. Je pense que c'est clair. Hein bon. Et c'est toute l'époque contemporaine, nous avons été aux prises avec cet Amalek à différents visages. Alors pourquoi c'est au moment des sorties d'exil ? Parce que c'est évidemment au moment où l'identité d'Israël apparaît au moment où on sort de la clandestinité. Alors Amalek, Réchid Goïm, sort de la clandestinité et... Bien, vous voyez donc quel est ce schéma. On va commencer, s'il nous reste du temps, oui, il reste quelques minutes, à lire deux choses. D'abord, je reviens au début de l'exposé, qu'effectivement, quand les rescapés des Hébreux de Ur-Kasdim et à qu'une seule famille se rendent compte qu'il faut décrocher, ils savent où ils rentrent. La terre de Canaan, qui sera appelée plus tard par Joseph, la terre des Hébreux. Et le Pharaon comprend. Et vous allez prendre le chapitre 6 à la fin de Bréchit. C'est à la fin de Noach, cette histoire. C'est donc, ça doit être 12, je vais dire ça tout de suite. Non, la fin du chapitre 11. Prenez, si vous voulez, à partir du verset 31 de la fin du chapitre 11. Vous y êtes ? Alors, Yudalef, Lamadalef. Verset 31 du chapitre 11. Vaïkar Terach, et Terach prit, et Abraham Beno, Abraham son fils, Vaï, il s'appelle Abraham, Vaït Lot ben Haran ben Beno, et Lot, fils de Haran, son petit-fils, c'est Lot qui est le petit-fils, Vaït Sarai Kalato, et Sarai sa bru, la femme d'Abraham, et chez Abraham, Beno son fils, et toute cette accumulation de détails est importante, mais ce n'est pas l'objet de l'étude maintenant. Vayetse Uitam, ils sortirent avec eux, il y a un problème, le sujet c'est Terach, et voilà que Uitam c'est un pluriel, encore un autre problème. Mais Ur-Kasdim, de Ur-Kasdim, la lechet arza Canaan, pour aller en direction de la terre de Canaan. Et jusque-là, il n'y a eu aucune révélation à personne pour dire aller en terre de Canaan. Qu'est-ce qui se passe là? Après, je nuancerai un peu. C'est que Abraham, le Midrash va restituer tout cela, diagnostique qu'il faut décrocher de cette vocation en mission, entre guillemets, à Ur-Kasdim et rentrer à la maison. Et alors, finalement, il arrive à convaincre Terach, et Terach est apparemment le sujet de cette alia, mais le moteur, c'est Abraham. Ça explique un peu ce hitam au pluriel, d'ailleurs. Vayavo ou Al-Haran, ils arrivent jusqu'à Haran, qui est une ville sur la frontière, Vayashi Usham, et ils s'installèrent là-bas. Bon, c'est pas une blague, mais ils ont fondé une fédération sioniste, dont le président était Terach, il est resté là-bas. Okay. Ça devait être, je sais pas, Toulon, Marseille, Nice, une ville. Donc, voilà. Alors, première indication. Ça veut dire que avant même qu'il y ait l'Ech Lecha d'Abraham, au verset 12, au chapitre 12, avant même qu'il y ait une révélation pour confirmer cela, on voit qu'il y a une initiative qui vient de la famille d'Abraham, de décrocher de l'exil d'Ur-Kasdim pour entrer chez soi. Et chez soi, c'est le pays de Canaan. Personne ne leur a dit où c'est chez eux. Ils se rappelaient. Les Shana Abba, Jérusalem. Il y est. Bon. Il n'en reste pas moins qu'il y a une discussion entre les commentateurs. Est-ce que le Lech Lecha, Me'artzecha ou Me'olatecha, qui confirme c'est bien ça qu'il faut faire, a été dit à Abraham déjà à Ur-Kasdim, ou bien est-ce qu'il a été dit à Haran, à cette ville intermédiaire? Donc cette marloquette existe, c'est indéniable, mais malgré tout, vous voyez que dans le déroulement du récit du Pshat, on voit que la Torah va nous indiquer qu'il y a un processus qui se fait par lui-même, Abraham rentre chez lui. Et voilà comment Dieu le lui explique, chez lui. Tu décroches de ce que tu crois être ton pays, au Kasdim, de ce que tu crois être ta patrie, et de ce que tu crois être ta maison maternelle, vers la terre que je te montrerai. Regardez la difficulté. Tu vas aller là où je te montrerai. Et il ne sait pas où il va, alors si. Il faut attendre qu'il arrive là où il arrive pour que Dieu se révèle à lui. Et c'est effectivement au Har Moria que Dieu va se révéler à voir. Est-ce que c'est clair ce que je dis là, hein? Dieu ne lui dit pas tu vas aller au pays de Canaan. Il dit tu vas aller là où je me révélerai à toi. Et Abraham sait où c'est. Voilà, c'est clair? Dans tous les cas. Top. Et alors, il y a ici une règle très importante qui apparaît. C'est que malgré tout, la fin de l'exil, c'est d'abord l'initiative humaine d'Israël. Je répète, l'initiative humaine d'Israël qui déclenche la fin de l'exil. Et après, Dieu se révèle pour confirmer. Pourquoi c'est important? Parce que nous vivons ce problème dans le temps contemporain, avec la marloquette, entre ceux qui disent « mais il faut attendre le Messie ». Nachon, vous voyez à quel point c'est grave? Alors je vais vous donner deux exemples. Celui-là, le commencement de l'histoire dévoilée d'Israël, et la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, il y a d'abord une initiative de Moïse, avant toute révélation. Et puis, il se heurte au refus des Hébreux et des Égyptiens. Il s'enfuit à Midian. 40 ans après, Dieu se révèle à lui pour lui dire « retourne, c'est bien ça qu'il fallait faire ». Mais quand Moïse a pris l'initiative, il n'y avait aucune révélation. Est-ce que c'est clair? Bon. Alors, je n'ai pas dit que la révélation pour confirmer, ça se passe au bout de 40 ans, c'est l'année prochaine, la 40e année. Mais je crois que dans les événements, Dieu a confirmé. Et quand le mouvement sioniste contemporain est apparu, c'est sur initiative humaine stricte. Et pour qu'on soit sûr que c'est sur initiative humaine stricte, au premier congrès de Bâle, on n'a pas laissé parler les rabbins. Et on a bien fait. Je pense que c'est clair. Et après, voilà, 40 ans après, un peu plus. À l'époque, c'est 90 ans après. À l'époque, Herzl avait dit, dans tous les cas, dans 5 ans, mais en tout cas, sûrement dans 50 ans, vous verrez un État juif. Tout le monde a dû le prendre pour un sioniste. Et finalement, c'est arrivé. 50 ans après qu'il ait dit ça, il y a eu l'État juif. J'ai pas dit qu'Herzl était prophète. Hein, ça doit être plus grave. Et vous vous rappelez ce qu'il a dit? Si vous voulez, ça ne sera pas un rêve. Comment ça se dit en hébreu? Im tirsu zelo agada. Une fois donné un pied rouge. Im tirsu ze halacha. Zelo agada. Im tirsu. Bon, j'ai compris ce qu'elle dit. Et alors, c'est très frappant. Vous avez le premier exemple qui est la sortie de Kazim d'Abraham. Le deuxième exemple, c'est la sortie d'Égypte avec Moïse. C'est-à-dire que et la révélation à Abraham comme à Moïse a la même allure. Rentre au pays et là-bas je te dirai ce que je vais te dire. Et de la même manière, nous l'avons ici pour Abraham, va et là-bas je me révélerai à toi. Et pour Moïse, amène-les-moi chez moi et là-bas j'ai des choses à vous dire. Alors vous voyez à quel point on est en porte-à-faux avec toutes ces attitudes doctrinales, pseudo-doctrinales, très pieuse, moins pieuse, philosophique, moins philosophique, donc il n'y a aucune source, ni dans la Torah, ni dans la Gemara, ni dans la Kabbalah, qu'il faut attendre le Messie pour entrer en Eretz Israël. Et ce que je le dis clairement. Okay? Et alors, la question qui se pose, c'est, alors d'où viennent ces attitudes? Exactement, c'est ce que je suis en train de dire. Tu sais, j'ai réfléchi à la question un peu. Et alors, eh bien, je suis en train de vous montrer que c'est une donnée permanente de l'entêtement juif dès l'origine. On va retrouver ça à chaque moment de notre histoire. Je pense que c'est clair. Je ne sais pas si vous rappelez et deux choses importantes. Ce que nous vivons dans ces problèmes éclaire ce que le texte dit, sinon il serait incompréhensible. Quand à la sortie d'Égypte, Moïse se heurte au peuple qui lui dit « D'où tu sors ?» Moïse. Finalement, il était seul contre tous. Qui avait raison, c'était Moïse. On l'a su après. Et puis, inversement, ce que le texte nous enseigne nous éclaire sur cette invraisemblante chose que tu désignes. l'entêtement des Juifs à ne pas être eux-mêmes. Et à se chercher tous les alibis possibles et imaginables, et le plus pernicieux, c'est de faire semblant de se baser sur la Torah. Je dis bien ce que j'ai dit, pernicieux et faire semblant. À chaque fois qu'on leur dit, mais ribonoche, alors là, mousse est écrit. Hein, si. Il y a un rabbin d'Odessa qui au 14e siècle, là. Je te parle de la Torah, je ne te parle pas d'Odessa. Où c'est écrit, okay. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc. C'est beaucoup plus grave que ça. Et on aura étudié cette chose-là. Mais ce que je veux mettre en évidence, c'est le fait invraisemblable. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable dans le récit, il faut expliquer, et c'est invraisemblable dans la réalité. Je ne sais pas si vous arrivez à réaliser quelle peut être la réaction d'un sociologue goy, de bonne santé mentale, qu'est-ce que c'est ce peuple de fous? Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Ils ne sont pas encore sortis des asiles. Bon, et alors, des choses élémentaires. Et est-ce que tous ces juifs pieux qui, je ne veux pas vous citer les asiles, ne se sont jamais rendus compte que la Bible est en hébreu, que la Torah dont ils parlent est en hébreu, qu'elle ne parle que des Israël, qui n'a jamais écrit nulle part qu'il faut attendre le Messie pour entrer chez soi? C'est d'Afka l'inverse. Je me rappelle l'un de mes maîtres qui disait, les juifs disent qu'ils attendent le Messie, mais c'est un pieux mensonge, c'est lui qui nous attend. Et où, vous croyez qu'il nous a donné rendez-vous à Brooklyn? Qu'est-ce que c'est cette histoire de fou? Alors, on va se demander, mais alors, quoi? Ta question, hein? Alors, il faut avoir le courage de voir les choses en face. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'identité juive depuis l'origine. Il y a quelque chose de pas cohérent. Et alors, il faut redevenir normal. Et alors, la Torah l'explique. Et si vous lisez les prophètes, ces invectives des prophètes, lisez Ézéchiel, où Dieu dit à son peuple, vous ne voulez pas de moi, vous voudrez de moi dans le feu. C'est écrit dans Ézéchiel. Et là, et alors, où est le drame? C'est que les Juifs ne disent jamais qu'ils ne veulent pas. Ils disent toujours, mais on veut. Mais quoi? Alors, il y a un problème à étudier. Je crois que l'intérêt de cette étude dans l'histoire des patriarches, et ça commence là. Vous verrez les perplexités d'Abraham quand Dieu lui dit, cette terre c'est à toi. Et Dieu, Abraham dit à Dieu, pieusement, t'es sûr? Et elle dit, ah c'est comme ça, ben, tu verras ta descendance, l'exil, jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils sont chez eux que chez eux. Et ils arrivent chez eux, ils se disent, c'est vrai que c'est chez nous, peut-être c'est chez les autres. On a vu un peuple pareil. Ou on a vu un peuple pareil. Et la farce de l'histoire, c'est que c'est dit pieusement. Mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, bon, on va s'arrêter là parce que sinon je vais dire des blagues. Alors je m'arrête là. Enfin, je veux dire des gentillesses. Donc, alors écoutez, il est possible que je sois en voyage la semaine prochaine, c'est pas sûr. Mais vous le saurez à temps. Dans tous les cas, rendez-vous dans 15 jours ou la semaine prochaine. Alors, amen. Je vous ai dit à vous.